soupçonné d'avoir reçu des pots de vin. Toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 24 novembre 2022. Je suis Delphine et je suis accompagnée de Laurent. Bonsoir à toi.
Ah, c'est moi, bonsoir.
Ouais, c'est toi. Nous allons parler de quoi ce soir, dis-moi?
Ah mince, il faut que je dise de quoi on parle.
Oh, pff, ah,
tu parles de flics qui ont été condamnés.
Ouais.
On va parler des manœuvres de l'extrême droite sur la corrida, sur l'IVG.
On aura le droit de parler un peu de la bêtise de l'extrême gauche aussi.
Ouais, du coup, on conclura par l'infamie de l'extrême gauche. Le mot est pas assez fort.
Ouais.
Pour qualifier ce que je ressens contre la France insoumise. Chine.
Ouais.
Un peu. HP. Alors HP, je sais pas si ça veut dire haut potentiel, si ça veut dire Alouette Packard.
Voilà.
Ah merde, c'était Alouette Packard. Argentine.
C'est plus moi quand même de parler d'économie que de haut potentiel. Si
surtout c'est une belle escroquerie. Enfin, on en discutera un autre jour. Des Kurdes, du racisme, voilà. Enfin bon, de plein de choses. Ouais. Allez, tu ouvres avec ces
oui,
policiers.
Alors c'est l'actu du jour et l'actu lyonnaise du jour. Je voudrais donc vous parler des suites de ce procès. Qui concernait Arthur Nassiri. Arthur Nassiri, c'est là dans ce procès. Les accusés, ce sont deux policiers qui, donc, 3 ans après les faits, ont été jugés pour avoir donc frappé Arthur, place Bellecour, à Lyon. Ils ont donc été condamnés aujourd'hui, ce jeudi. Alors, il faut savoir que, d'abord, quand Arthur se fait taper, tout de suite, il parle, hein, il raconte, il y a une médiatisation, mais quand même, tout de suite... Les flics, ils sont pour rien. Alors, il a fallu quand même qu'il y ait de la photo et de la vidéo qui ont été prises par des témoins qui vont montrer Arthur Nassiri, la bouche ensanglantée, place Bellecour. Ce jour-là, hein, les photos sont bien datées du bonjour. Et c'est à partir de ce moment-là que le parquet de Lyon va ouvrir une enquête et que l'inspection générale de la police nationale va être saisie. Et à partir de là, on espère donc... tous et toutes, hein, que ces policiers soient jugés et condamnés. Alors, il y a eu 4 renvois, hein, quand même, hein, c'est pas rien. Les 2 policiers sont membres donc de la brigade anticriminelle, hein, ce qu'on appelle la BAC, entre nous, hein, et entre eux d'ailleurs aussi, a priori. Donc, il y a le 22 septembre dernier, il y avait donc une comparution pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, on attendait ce résultat. Parce que, alors, je vous rappelle les faits, quand même, si vous l'aviez oublié. Arthur Nassiri se trouve donc place Bellecour, on est en 2019. Il y a des manifestations contre la réforme des retraites et Arthur a toujours expliqué qu'il n'était pas là pour manifester. Il aurait pu être là manifester, perdre 9 dents.
Ouais.
En se faisant tabasser par les flics.
C'était pas une bonne idée, c'était pas une raison non plus.
C'était pas une raison, mais toujours est-il qu'il a toujours dit qu'il n'était pas là en plus. Donc ça veut dire qu'en plus on a quelqu'un qui n'était pas un manifestant et qui est donc est pris pour cible hein, par la police. 9 dents, hein, vous avez bien entendu, hein, si vous aviez oublié. Donc tout ça avec des coups de matraque. Donc les deux policiers, les deux bacs, ont pris 12 mois de prison avec sursis pour violence volontaire en Réunion. C'est une circonstance aggravante. Hein, donc c'est déjà bien. Évidemment, mais il paraît qu'après je vais soulever des polémiques. Si toi tu m'écoutes et que tu pètes 9 dents à un flic, tu vas pas prendre 12 mois avec sursis, d'accord ? Mais là encore une fois, il paraît que je polémique derrière, donc on va juste dire que bon, quand même, on a des flics condamnés à 12 mois de prison avec sursis pour violence volontaire en Réunion. Et puis, a priori, pour ce que j'en ai compris, donc le tribunal a expliqué que les deux policiers ne sont pas exonérés d'une inscription au casier judiciaire. Ils sont aussi condamnés à verser solidairement la somme de 20 000 euros à peu près hein, à Arthur Nassiri pour réparer, paraît-il, le préjudice moral et corporel, hein, moral parce que ça fait quand même 3 ans qu'il attend de reconnaître qu'il s'est bien fait tabasser par ces flics qu'il avait dénoncé tout de suite, et puis parce qu'il a perdu encore une fois 9 dents quand même, et puis enfin c'est la mâchoire, c'est la bouche, c'est son visage, c'est pas que des dents. Donc voilà, le procureur avait rappelé que dans son réquisitoire qu'une interpellation n'est pas synonyme de matraquage, je le cite. Cette technique d'interpellation n'est pas nécessaire et elle est grave, je le cite encore. Donc là quand même je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est parce qu'on a eu de la photo et des vidéos prises par des personnes sur place que ces photos et ces vidéos ont pu être diffusées au procès, et c'est sur ce matériel que l'avocat de Arthur Nassiri a pu se mettre en avant. Parfois on nous dit oui mais vous savez la vidéo protection, vous savez ce terme magnifique, au lieu de vidéosurveillance, c'est bien parce qu'elle filme simplement. On a vu à un moment des procès où la vidéosurveillance, elle n'était pas utilisée contre ces policiers.
Alors, donc... Là, pour le coup, c'est un exemple flagrant. La vidéo n'a pas protégé, elle n'a pas empêché le mec de se faire péter la gueule par les policiers. Ça sert après à la rigueur pour faire condamner, mais ça n'a aucun moment protégé la future victime.
Alors, ce qui moi m'a marqué un petit peu dans les ce que j'ai pu lire des donc de ce récapitulatif de ce procès, c'est que les deux baqueux n'ont jamais reconnu les faits. Alors, ils n'étaient pas là, ce sont pas eux hein, qui étaient au bout de la matraque. L'avocat d'un des baqueux a même expliqué, je suis désolé de vous le dire, ces propos ont été rapportés par la presse lyonnaise, je ne sais pas comment monsieur Nassiri a perdu ses dents. Donc on cherche toujours, d'après cet avocat, qui a enlevé les dents de monsieur Nassiri. C'est monsieur maître Laurent Franck Liénard. Il est spécialisé hein, dans la défense des forces de l'ordre, donc il a l'habitude d'être assez odieux, a priori. Hein, pour moi, ce que j'ai pu relire de ses petites paroles.
Du coup, il est toujours du côté des violences policières.
Faut croire, puisqu'elle est spécialisée dans la défense des forces de l'ordre, quand même. Donc, on sait qu'en fait, ils ont décidé tout de suite hein, de faire appel, hein, les
flics,
les deux baqueux. Mais c'est vrai que ça, il y a eu quand même plusieurs envois, vous avez dit 3 ans, hein, parce qu'il y a d'abord eu, alors c'était prévu en décembre 2020, ça tombait mal. Ensuite, ça a été renvoyé en 2021. Et puis après, ça a été encore reporté fin septembre 2021. Et puis, repoussé, vous voyez, jusqu'à avril 2022 où il y avait eu hein, l'expertise des images, et puis ensuite on a donc ce mois de septembre, et puis maintenant en novembre 2022, enfin cette condamnation, voilà, c'était quand même la bonne nouvelle de la journée. Arthur Nassiri a enfin pu mettre un point final à ce procès et à cette reconnaissance qu'il s'est bien fait tabasser.
Voilà, on poursuit.
Par des flics. Voilà, c'est ça l'important.
On poursuit à travers deux sujets qui ont beaucoup fait bouger l'Assemblée nationale aujourd'hui, la corrida et l'IVG, à travers le regard et les prises de position de l'extrême droite française. Alors il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Marine Le Pen s'est exprimée et avait dit qu'elle refuserait de voter l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, qui est portée initialement par la France Insoumise. Puis qui a été reprise par la présidente du groupe Renaissance, le parti macroniste, à l'Assemblée nationale, Aurore Berger. Elle avait déclaré par exemple au JDD, je comprends pas bien du coup à quel danger doit répondre cette demande de constitutionnalisation. Ça c'est le 13 novembre dernier. Alors on lui répondra que la proposition de loi vise justement à se prémunir contre les régressions possibles, et on en a vu pas mal dans certains pays. Quelques jours après, Marine Le Pen, telle une girouette fasciste, a fait un tour sur elle-même pour tourner à 180 degrés, donc pile à l'opposé. Et la patronne des élus du Rassemblement National a déposé donc le 20 novembre, 7 jours après cette interview, un amendement issu donc du groupe d'extrême droite, prévoyant l'inscription dans la Constitution, non pas du droit à l'avortement, mais de la loi Veil, un texte que son parti a éminemment combattu, parce que son parti contient une grosse partie de courant catholique traditionnaliste qui s'oppose fortement au droit à l'avortement. Bizarre quand même. Alors pas tant que ça, puisque ça relève pas mal de l'instrumentalisation et du calcul politique, pas bête du tout, je vais expliquer ça dans le détail. Puisque son amendement prévoyait, il n'est pas passé évidemment, le maintien de la clause de conscience spécifique octroyant au médecin le droit de refuser de pratiquer l'avortement. Donc l'idée pour elle, c'était de passer, avec son amendement, tout ce qui existe aujourd'hui dans la loi Veil, c'est-à-dire une loi qui va pas très loin quand même. Et son idée à elle, c'est de dire, ok, sur l'avortement, je suis en train de perdre, je fais quoi ? Je fais du calcul politique, je fais croire que je défends le droit à l'avortement, et je propose de mettre dans la Constitution un projet de loi qui bloquera toutes les évolutions possibles. C'était pas con. Hein, en tant que calcul, dit bon, s'ils veulent l'améliorer, au moins avec ma proposition, ils pourront pas, puisque dans la Constitution, elle voulait inscrire que l'IVG, c'est tant de jours, tant de machins, et surtout ce fameux, cette fameuse clause de conscience, hein, qui est quelque chose d'anti-rationnel, d'anti-scientifique, mais qui est portée par l'extrême droite et qui peut être utilisée par les médecins, toutes les personnes qui s'opposent à ça au nom de leurs idées. On imagine quelqu'un qui refuse de soigner parce que, ah bah non, cette personne ne correspond pas à mes idées. Bah c'est ça. Sauf que c'est pour le droit à l'avortement, c'est pas pour soigner, mais c'est exactement ça. Le limiter la liberté des gens qui veulent se faire soigner à la liberté, finalement, des gens qui soignent. Or, normalement, c'est le patient qui devrait être prioritaire, hein, sur les idées du médecin, mais pour l'extrême droite, bien sûr que non. Alors, ils n'arrivent pas à le faire passer pour d'autres idées, hein, parce qu'ils voudraient bien, hein, quand même. Mais pour le droit à l'avortement, ils sont arrivés, hein, avec cette clause de conscience qui existe dans la loi française, malheureusement. Donc voilà. Donc elle semble jouer les contorsionnistes, hein, Madame Le Pen, mais pas du tout. L'idée était double, hein, comme je viens de le dire, c'était de bloquer l'évolution possible du droit à l'IVG et surtout de faire croire que son parti défend le droit des femmes, parce qu'elle est sur cette position-là depuis des années, alors qu'en fait, on sait tous que c'est totalement faux. Pour preuve, encore très récente, en novembre 2020, les députés RN du Parlement européen s'étaient prononcés contre une résolution qui condamnait la Pologne pour les régressions sur le droit à l'avortement. Eh oui, on se rappelle, on va reciter des choses encore plus récentes, les nouveaux arrivés du Rassemblement National, Hervé de Le Pinot, par exemple, et Laurette Lavalette. Eux, ils ont signé en 2014 un appel à parrainer les candidats qui s'engageraient à abroger la loi sur l'avortement. Christophe Benz, élu de Haute-Marne, écrivait, lui, il y a quelques années, en 2011, que l'IVG, c'est comme un génocide de masse. Ah oui, c'est les amis, c'est les élus et les amis du parti de Marine Le Pen. Il y a Philippe Ballard qui est pas mal aussi. Il avait lâché, lui, lors du débat sur de l'année dernière, hein, sur l'augmentation du temps de possibilité pour pratiquer un avortement. Il avait dit, je cite, l'embryon a des perceptions, ce n'est pas une tête d'épingle. Un beau troupeau de nationalistes anti-IVG, donc. Alors, si Marine Le Pen s'engage à ne pas remettre en cause la loi Veil, elle a pourtant quand même beaucoup combattu cette loi. En 2011, par exemple, elle affirmait à la Croix qu'il fallait arrêter de rembourser l'avortement, parce que ça favorisait l'avortement. Elle voulait aussi, parce qu'elle condamnait ce qu'elle appelle des avortements de confort. Je pense qu'elle a jamais croisé beaucoup de femmes qui se sont fait avorter, parce que c'est pas tant de confort que ça. Mais bon, alors, bref.
Il faut arrêter de dire que c'est un problème physique. Je veux dire, c'est pas vrai ni moral. Il y a des femmes pour qui ça se passe très bien d'avorter.
Oui, surtout quand c'est fait tôt et avec la pilule du lendemain, notamment.
Et donc, je veux dire, c'est pas tant le problème. C'est juste que.
Mais c'est méprisant de dire ça quand même.
Ah, c'est tout à fait méprisant. Je suis d'accord avec toi. C'était juste pour redire. Oui.
Bon, ouais. Elle avait traité le planning familial de centre d'incitation à l'avortement. Bon, ben, des choses comme ça, quoi. Elle s'affiche à côté de Viktor Orban, hein, qui est anti-avortement, qui a limité beaucoup l'accès à l'avortement en Hongrie. Ben voilà. Au final, Et dans le cadre de cette fameuse niche parlementaire de la France insoumise sur toute la journée, les députés ont adopté à une très large majorité, en première lecture, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Donc c'est une bonne nouvelle. Le texte a été modifié. Il n'y a plus le droit à la contraception, ce qui était présent dans le premier texte. Donc c'est un énorme recul, ça, par contre. Hein, mais la contraception, c'est mal. A priori, c'était pas sûr de passer à cause de ça. Bon, bref. 337 députés présents, à peu près la moitié, les autres, ils ont dû glander ailleurs. Oui, ils sont payés pour rester chez eux, des fois, ces gens. Donc, pour, 337 pour, 387 votants, 32 contre, essentiellement issus du RN, hein, du coup, 23, parce que ces troupes, ils sont quand même bien anti-avortement, hein, 23 du RN, 7 LR hein, qui ont voté contre, et puis 2 de gens non apparentés à un parti. Voilà, donc c'est... Alors c'est pour l'instant symbolique, parce qu'il faudrait que le Sénat soit d'accord, mais bon, ça serait une belle évolution. Donc c'est un texte, je ne l'ai pas lu, ça serait rajouté à l'article 66 de la Constitution, ça serait écrit « La loi garantit l'efficacité... » Non, la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est tout. Il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas le reste autour, mais c'est un compromis. Et voilà. Et maintenant, deuxième sujet du jour. On rappelle donc, la France Insoumise avait toute la journée là, pour proposer des lois. Ils en avaient 4 ou 5 sous le coude. Et finalement, ils ont décidé d'en garder que 2, vu les millions d'amendements qui ont été déposés pour bloquer. Hein, c'était impressionnant. Donc le deuxième, qui arrivait juste après, donc vers 16h30, 17h, c'était le thème sur la corrida. Donc je vais parler un peu de corrida. Je vais reprendre une image que j'ai trouvée pas mal, enfin assez glauque, du site Nantes Révolté, dans sa nouvelle forme, qui a changé de nom, là je me rappelle plus, qui disait « Imaginons une tradition locale. Un petit chaton envoyé au milieu d'un cercle de spectateurs. On lui enfonce de petites lames dans le dos pour l'épuiser pendant de longues minutes, en l'attirant avec des croquettes. Épuisé, couvert de sang, transpercé de toutes parts, le félin fatigue, titube, crache du sang. Le couteau de cuisine vient lui transpercer la colonne vertébrale. Le chaton tremble, agonise et meurt. Les spectateurs applaudissent et acclament la mise à mort. » Bon, bah, dans la vraie vie, c'est exactement ce qui se passe avec un taureau. Alors avec un petit chat, ça nous horripile, ça nous fait vomir. Avec un taureau, pareil, mais pas pour tout le monde, du coup. Donc c'est une activité de torture hein, sur des animaux, qui est présentée souvent comme une tradition. Oui, tu voulais rajouter ?
Oui, mais la semaine dernière, on disait bien que c'était un des arguments, c'était que le taureau, il était, par sa nature, élevé pour être massacré. C'était ça quand même l'argument dont j'ai cité...
J'ai ressorti d'autres arguments aujourd'hui.
Super.
Ils sont super bons. Donc, un acte de torture sur ces animaux, c'est présenté comme une tradition dite intouchable par une petite partie du sud de la France, essentiellement dans la région autour de Nîmes, Arles, enfin ce coin-là. Donc voilà, alors le spectacle hein, consiste soi-disant à opposer la puissance du taureau à l'habileté du torero. Mais tout est pipé dedans. Hein. Les bovins sont enfermés, souvent désorientés avant de rentrer dans l'arène. Parfois ils sont déshydratés, on leur donne même des laxatifs, les sabots sont incisés, enfin tout est fait pour qu'ils en prennent plein la gueule, grosso modo, et que le torero s'en sorte parfaitement vivant. Et plein de gloire. Alors sur la petite histoire, parce que les arguments historiques sont souvent repris par les défenseurs de la corrida. La corrida, c'est née au Moyen-Âge, donc il y a pas très longtemps, hein, pas très longtemps en regard de l'histoire de l'humanité que nous sommes en tant qu'Homo sapiens, hein, on a une centaine de milliers d'années. Donc au Moyen-Âge, en Espagne. Et ça existe sous la forme que nous connaissons aujourd'hui à peu près à partir du milieu du 18e, enfin du 18e siècle, voire du milieu du 19e pour la forme vraiment correspondant à celle qu'on a aujourd'hui. C'est au milieu du 19e qu'en Espagne apparaît tout le décorum, le drap rouge, l'estocade à la fin, voilà. Les premières corridas en France apparaissent en 1853, donc c'est très récent, apportées par une impératrice espagnole qui s'appelle Eugénie. Alors du coup l'argument c'est une tradition française, tout ça c'est mort, c'est juste de la propagande. C'est pourtant bon hurlé contre vents et marées par pas mal d'élus, notamment de l'extrême droite, qui mettent le truc français de partout, même quand ça y est pas. Alors aujourd'hui, ça paraît indéfendable la corrida. D'ailleurs, il y a un sondage récent. On pense qu'on veut des sondages, mais 80% des Français disaient qu'ils étaient opposés à cette pratique. Ça fait quand même beaucoup. Alors l'excuse habituelle des citadins marche pas, du coup, parce que il y a moins de 81% de Français qui sont des citadins. Parce que c'est une excuse aussi des fans de tauromachie. Alors que à Nîmes et à Arles, il y a une partie de la population qui est pour, ils sont citadins quand même, c'est des villes. Mais bon, ça, je pense qu'ils n'ont pas tout le cerveau qui fonctionne très bien, ces gens-là. Donc de nombreux élus de ces régions-là, de cette région en fait, font bloc. On se rappelle d'une manif contre l'interdiction de la corrida plutôt, avec main dans la main le député d'extrême droite Johan Gillet avec le député macroniste Patrick Vignal, car c'est transpartisan un peu cette défense ou cette attaque de la corrida. Donc voilà, bon, ces deux députés, ils ont beaucoup fait hein, pour essayer de bloquer l'interdiction de la corrida. C'est pas les seuls, une grosse partie du RN aussi et de LR pas mal, même quand ils sont pas de cette région-là, pour des raisons de défense des traditions françaises, hein, parce qu'ils ont pas tout compris l'Espagne, tout ça. Les cours d'histoire, ils y étaient pas. Hein. Donc voilà. Alors, il y a bien sûr toujours l'imbécile de service, là. Vous savez, le comédiste préféré des médias, des milliardaires, là, l'imbécile utile de la droite et de l'extrême droite, là, on l'appelle Fabien Roussel, qui avait annoncé lui aussi qu'il voterait parce qu'il aime bien la corrida, il défendait le droit de torturer les animaux. Bon, c'est pas nouveau que Fabien Roussel est un imbécile. Mais c'est toujours triste à chaque fois qu'il le plonge plus bas en termes d'image. Et alors je voulais reprendre un petit florilège d'une interview que j'ai lue, qui m'a beaucoup donné envie de vomir, d'Emmanuel Taché de la Bajerie. Oui, la Révolution française a raté quelques aristocrates, rappelons-nous, qu'il ne devrait plus y avoir de deux, comme ça, de particules. Bon, donc cet ancien descendant d'aristocrate défend avec force la corrida. Il dit, je cite, « Il y a effectivement des gens qui sont farouchement pour et d'autres farouchement contre. Ce que je vois autour de ce sujet, c'est qu'il y a une réelle méconnaissance de la part de mes collègues du monde taurin et de la réalité agricole, économique et même sociale. Je vois dans les écoles taurines des enfants qui, plutôt que de faire le guet ou de vendre de la drogue dans certaines cités d'Arles, font de la course camarguaise, deviennent toreros. Ça les extrait du milieu où il y a de la violence et ça leur permet une assimilation, une cohésion nationale. Les jeunes gens intègrent la vie en société. » Alors lui, pour lui, voilà l'argument, c'est qu'intégrer, c'est un truc social, la corrida. Vous, au lieu d'aller vendre de la drogue, eh ben vous allez tuer les taureaux, les gars. C'est pas mal comme argument. Celui-là, je l'avais pas entendu, tu vois, d'argument encore. Continuons cette interview vomissante. Il dit, certes, la mise à mort peut paraître cruelle, mais je rappelle qu'il y a 900 taureaux qui passent dans les arènes et 3 millions d'animaux tués chaque jour dans les abattoirs. Le taureau est un animal sauvage, on ne le tue pas n'importe comment. Quand on plante l'épée dans la colonne vertébrale de l'animal pour qu'il meure, c'est pour qu'il meure tout de suite sans souffrance. Si vous avez déjà vu des images, ça n'a pas l'air d'être sans souffrance. Des fois, il faut 20-30 minutes hein, pour que le taureau rende l'âme. Le meilleur argument, c'est celui-là. C'est j'adore quand des viandards prennent l'exemple des abattoirs pour défendre une autre pratique de torture animale. Dans les abattoirs, les animaux ne souffrent pas normalement, si l'abattoir est correct. Ils sont étourdis, etc. Ce qui n'est pas le cas hein, dans la corrida. Ils ne sont pas censés souffrir pendant 20 ou 30 minutes, etc. Bon, même si dans les abattoirs, on est loin d'arriver à une belle qualité de mort, si on peut parler comme ça, c'est un peu glauque, mais c'est comme ça quand même. Voilà. Alors pour terminer, je dis pas tous les extraits de l'interview parce que vous allez pas pouvoir vous retenir de vomir. Il a dit, en termes de bien-être animal, on est au maximum. Là, c'était high level. Hein. Mais la volonté de Monsieur Caron, donc qui était porteur du projet de loi, c'est de détruire les schémas de cohésion sociale qui existent depuis des siècles. Donc on a dit la corrida, c'est 1850. En termes de siècles, ça fait pas tant que ça quand même. Ça, parce que deux siècles, ça ferait 1820. On est en 2020, je crois. Donc ça fait pas des siècles en fait. Hein. Ça fait. Attends. Mais il sait pas compter, le pauvre. Il dit la corrida telle qu'on la connaît existe depuis l'impératrice Eugénie. Mais la culture taurine existe depuis bien plus longtemps sur notre territoire. Elle a 1000 ans. Je sais pas si la culture taurine, c'était de torturer les taureaux, c'était peut-être de les laisser vivre. Hein. Enfin bon, bref. Après la corrida, alors il va plus loin, il dit, après la corrida, ce sera la chasse à cour. La chasse, la pêche. Bon, il défend aussi la chasse à cour. Bah, c'est un ancien aristo, forcément. Hein. C'est un truc pour les aristocrates. Enfin voilà, ça donne une idée un peu de ce qu'est un élu du Rassemblement National, ce parti d'extrême droite. Pour lui, pour eux, la corrida, c'est de la cohésion sociale, c'est du bien-être animal, c'est de la tradition, c'est de la France. On vient de démontrer que c'était rien de tout ça, mais bon, après, ils ont le droit de faire de la fausse information. Et coup de poker, donc il s'est présenté vers 17h, 17h30, même pas. Il y a quelques groupes qui commencent à parler de la corrida, notamment Caron qui parle de ce qui se passe, des 20 minutes de mort, de souffrance, etc. Et là, d'un seul coup, il sort quelqu'un intervient, et lui, il reprend la main et dit « Je retire le projet de loi ». Sur le coup, on comprend pas. C'est quoi ce bordel? Pardon. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il retire le projet de loi? Et donc, c'est la France Insoumise qui lui demande de retirer le projet de loi. L'excuse. Ouais, mais on n'est pas sûr que ça passe. Ça va être long. Il y a plein d'amendements, etc. Grosso modo, une énorme victoire des défenseurs de la corrida. On ne sait pas comment ça s'est passé en sous-main pour que la France Insoumise plie. C'est pas la première traîtrise de ce parti classé à gauche, mais c'en est une de plus. Et du coup, comme ils suppriment ça, ils ont encore de la place pour passer une loi. Ils auraient pu choisir l'augmentation du SMIC, ils auraient pu choisir ce dont tu me parlais tout à l'heure là, sur un truc, une casserole que traîne Macron. Ils ont choisi un truc porté par les antivax. C'est une loi qui réintègre les soignants refusant la médecine moderne à travers le refus de la vaccination. Alors c'est un truc, c'est pas que anti-vax d'accepter le retour des anti-vax, parce que c'est de ça dont il est question, mais parce que c'est porté aussi pour des raisons sociales. Enfin, il y a plein d'arguments. Sauf que c'est des gens qui sont contre la médecine, qui veulent travailler dans la médecine et qui veulent porter des idées anti-vaccination. La France Insoumise est ambiguë, hein, sur le sujet de la vaccination, sur le sujet de la médecine et sur le sujet de la science en général. Il y a un énorme problème à l'extrême gauche depuis des années, hein, alors que l'extrême gauche a été très rationaliste autrefois. Le marxisme est porté au départ par le rationalisme, hein, ça a foiré après, mais là, on a une vraie traîtrise de la France Insoumise, tout ça pour faire plaisir à leurs copains anti-vax. Bravo. Voilà, c'était la déception du jour. On est traite un jour, traite toujours.
Oui, la casserole dont tu parles, c'est en fait cette affaire de proximité de Macron avec Uber. Voilà, c'était ça, hein, qui était un des sujets de la France Insoumise. Et puis sur l'histoire des soignants, j'ajouterais qu'il y a une vraie problématique. C'est combien de temps on va les laisser à l'écart. Donc il va falloir qu'il y ait un débat et une discussion. Mais en tout cas, la France Insoumise aurait pu choisir autre chose. Parce que cette histoire de Uber et de Monsieur Macron, ça aurait certainement pas été au bout. De toute façon, ça n'ira nulle part, mais ça aurait pu faire causer dans les médias, et donc faire un peu d'agitprop, c'est toujours bien, puisqu'en plus la France Insoumise est plutôt douée dans ce genre de choses.
De quoi parle-t-on maintenant? On va aller peut-être en Chine.
Oui, alors vous savez que la Chine est toujours dans son délire zéro Covid, ce qui amène les autorités chinoises...
C'est un délire, c'est pas forcément un délire.
Ah si, là, excuse-moi.
Mais c'est devenu un délire.
Là, c'est un délire quand même.
En fait, quand les Chinois
zéro
font
Covid,
chose,
déjà, ouais. Si tu veux, c'est un problème.
Oui, et puis quand c'est fait à la chinoise, ça devient...
Donc là, on a quand même bizarre. Des autorités chinoises qui décident, hein, d'une manière tout à fait démocratique, de confiner des millions de personnes en même temps.
Pour 5 cas, quoi, bon...
Voilà. Bon, alors là, soyons clairs, il y a des petits cas de Covid qui apparaissent en Chine, hein, c'est une réalité. Il y a beaucoup de cas, mais il y a beaucoup de cas asymptomatiques. Donc ça ne veut pas dire que pour autant, on a une situation absolument dramatique, mais les autorités continuent cette stratégie du zéro Covid. Alors on avait parlé, hein, il y a quelques temps, ça avait fait du bruit, hein, dans les médias, le Shanghai bloqué. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà à la Shanghai, mais enfin, bloquer une telle ville, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, on avait aussi pu entendre toutes les difficulté de l'économie chinoise qui, par secteur entier, se retrouvait complètement confinée à ne pas pouvoir faire travailler ces usines qui, quand même, nous fournissent des trucs sérieux et tout plein de merde à côté. Donc, on a des endroits extrêmement importants, comme Foxconn. Alors, Foxconn, je vous rappelle, c'est pas chinois, c'est taïwanais. La différence est importante, malgré ce que peuvent aussi penser là-dessus les autorités chinoises. Et Foxconn, c'est connu surtout parce que c'est le principal sous-traitant d'Apple. Alors, il y avait eu des tas d'affaires, hein, avec déjà cette entreprise qui a donc une usine en Chine, une énorme usine. Et on a pu voir ces dernières semaines des images assez impressionnantes. À un moment, les autorités ont donc décidé de confiner les ouvriers, les ouvrières, les techniciens et techniciennes de cette usine Foxconn. Et on a vu au tout départ des gens passer par-dessus les grillages, jeter leurs valises, hein, leur petite valise à quatre roues, vous voyez, et puis essayer de grimper par-dessus et puis s'enfuir sur les autoroutes à pied avec leur, en traînant leurs valises, de peur d'être confinés dans cette usine et d'y rester. Parce que tout le monde se souvient en Chine de ce que c'est que du confinement à la chinoise. Hein, c'est des gens qui arrivent dans des combinaisons blanches, des masques, des gants, des chaussures de protection et qui peuvent d'ailleurs taper d'autres gens. On a vu des images d'êtres humains tenus par deux autres êtres humains avec un troisième enfoncé un truc dans le nez pour faire des tests. Donc on est quand même... oui, dans une dictature. Je voudrais pas contredire ceux et celles qui disent que nous, en France, nous sommes dans une dictature Covid. Ce n'est pas vrai. Il suffit de voir certaines images. Donc, on a cette problématique donc de Foxconn et puis de donc des autorités qui décident que cette ville de Zhangzhou, dans le centre de la Chine, va donc se mettre à l'arrêt, enfin en tout cas va être confiné, ce qui fait que tout le monde est confiné à l'intérieur de l'usine. Ça voulait pas dire que l'usine allait s'arrêter, mais ça voulait dire que tout le monde allait rester bloqué avec les difficultés attenantes. Il faut savoir que ces ouvriers et ces ouvrières travaillent et vivent dans des dortoirs. Travaillent sur place, vivent dans les dortoirs, c'est pas glorieux, hein, donc c'est pas... voilà. Donc ça c'est une habitude, et en plus avec le confinement, ça devenait absolument terrible. Donc il y a cette problématique. Et puis à côté de ça, on a Foxconn qui est accusé d'avoir voulu remplacer des ouvriers et des ouvrières sur place en voulant contourner un petit peu on va dire on peut pas parler de droit du travail en Chine, même si il y a quelques réglementations. En tout cas là aussi, ça a posé des problèmes, puisque les travailleurs et les travailleuses ont demandé à Foxconn des augmentations de salaire, des réglementations, et puis surtout, bah, si jamais il y a du Covid, une organisation, puisque en vivant en dortoir, bah, les gens pouvaient se transmettre le virus. Donc là aussi, il y a eu du coup une montée quand même en colère, hein, de ces ouvriers et de ces ouvrières. Et puis, tout ça s'est répandu sur les réseaux sociaux chinois, qui sont extrêmement surveillés, bien évidemment. Et assez rapidement, il y a eu de la censure, hein, sur ces réseaux chinois. Il y avait un hashtag qui disait hashtag émeute Foxconn, parce que en fait, on a vu donc ces hommes et ces femmes en blanc calfeutrés dans leur combinaison de sanitaire, être extrêmement nombreux et tabasser, pousser les ouvriers et les ouvrières qui voulaient bouger, sortir. On avait déjà vu des images de ce genre au parc Disney World, je sais pas comment ça s'appelle exactement en Chine, où les gens étaient restés à l'intérieur du parc parce qu'il fallait que tout le parc, vous imaginez un peu, imaginez celui de France, bah vous prenez celui de Chine, je suis à côté de Shanghai, il me semble. Là, d'un seul coup, tout le monde était bloqué à l'intérieur. Personne ne pouvait sortir tant qu'on n'avait pas mis un bâton dans ton nez et que tu n'aies pas eu un résultat négatif. Quand tu étais positif, malheur à toi, puisque là, tu montais dans un bus, tu étais mis à l'isolement et ensuite, tu rentrais chez toi. Tu ne disparais pas, hein, faut pas pousser non plus, hein, simplement. Oui, effectivement, tu ne choisis pas ça. Et puis, c'est surtout les conditions. Alors, la Chine, elle change. Parce qu'on a pu voir des images qu'on n'aurait peut-être pas vues il y a 30 ans. Puisque, par exemple, sur l'histoire de Disney, on avait vu des images où les gens insultent les hommes et femmes en combinaison sanitaire et la police. Il y a 30 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué à ces gens d'insulter. Et en plus, nous, d'en avoir des images. Aujourd'hui, on a des images et on a une population qui se rebelle. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette usine Foxconn. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Si vous ne les avez pas vus, cherchez-les sur... vous avez les réseaux sociaux ou si vous avez Internet, cherchez-les, parce que c'est vrai que c'est vraiment une... c'est vrai qu'on n'est pas loin de l'émeute, hein, quand même. On a une rébellion, vraiment, face à ce qui... Bah, ouf. Déjà à Foxconn, et puis face à l'État chinois, c'est vraiment très très impressionnant. Et puis évidemment, bon, les gens se font quand même taper tout ça, tout ça.
HP,
oui. Alors HP, donc c'est bien Hewlett Packard, hein, donc on va parler d'informatique, d'ordinateur, que vous avez peut-être chez vous, qu'en tout cas vous connaissez certainement, parce que c'était une marque extrêmement importante, et on a appris qu'il allait donc avoir un plan social assez important. Alors les plans sociaux dans l'informatique, le numérique et les réseaux sociaux sont assez importants, hein. On a appris que Amazon sur sa partie numérique cloud et tout ça, Meta, hein, Meta, je vous rappelle, c'est la maison mère de Facebook, Microsoft, Twitter, tous ces gens là ont décidé de virer tout plein de gens. Alors chez Twitter, c'est un peu particulier, parce que tu peux te faire virer le lundi et être reconvoqué le mardi, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, pour 2022, pour les chiffres qui sont transmis pour l'instant, il y aurait 137 000 personnes du secteur qui auraient été licenciées. C'est beaucoup, hein.
Ouais, c'est pas
mal.
Un
secteur qui va mal. Et en particulier, ce qui concerne l'informatique, la machine en elle-même. Puisque donc, la mardi, Hewlett Packard a annoncé donc la suppression de 6000 emplois au cours des 3 prochaines années. HP se retrouve dans une situation assez, c'est commune à d'autres qui vivent la même problématique. C'est le cas de Dell, par exemple, autre fournisseur donc de matériel. C'est que il y a une flambée des ventes en 2020-2021, d'ailleurs avec une difficulté pour certaines entreprises d'arriver à fournir assez de matériel parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et puis en 2022, tout s'est cassé la gueule. Alors en 2020-2021. Vous savez, hein,
on s'est retrouvé
cloîtré. Il paraît que c'est toujours le Covid, mais en tout cas, on s'est retrouvé cloîtré à peu près partout dans le monde, à plus ou moins des degrés divers et longs. Hein, c'est aussi ça. Mais ça fait que les gens se sont équipés, les entreprises se sont équipées. Et puis maintenant, une fois que t'es équipé, tu rachètes pas tout de suite. Ça arrive que tu t'amuses à dépenser tes sous tous les 4 matins, mais en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. Donc là, du coup, les ventes de PC se sont carrément écroulées en 2022. Là, Hewlett Packard, faut savoir qu'il y a 10% de baisse hein, d'achat. Donc ça veut dire que ça, il y a du matériel qui va lui rester sur les bras. Et puis il y a à la fois donc le secteur des particuliers et puis le secteur des entreprises, et tout ça touche de la du même niveau HP, c'est-à-dire que plus personne n'achète. Alors il paraît qu'il y a l'inflation, mais bon, l'inflation maintenant elle a bandeau, hein, parce qu'elle est là de partout. En tout cas, c'est une crise hein, assez importante chez Hewlett Packard qui explique restructurer et couper dans ses effectifs. Juste parce que je trouve ça toujours magnifique, je vais vous lire la phrase. Elle nous vient de Henry Kellerès, qui est le président hein, de HP. Je vous la lis. Pour l'avenir, la nouvelle stratégie Future Ready que nous avons introduite ce trimestre nous permettra de mieux servir nos clients et de générer une création de valeur à long terme en réduisant nos coûts et en réinvestissant dans des initiatives de croissance clé.
Oula, putain.
Quand tu te fais licencier et que tu lis ça,
ouais,
tu t'es dit, tu te fous de ma gueule, Enrique. Alors, c'est quoi l'initiative de croissance clé? Je vais vous expliquer. L'idée, c'est de faire un petit peu tout ce que la tech a l'intention de faire, c'est de miser sur l'abonnement, c'est-à-dire qu'on va rendre captif le consommateur et la consommatrice en lui vendant un produit avec abonnement. Le produit abonnement chez HP, c'est quoi? C'est déjà ce qui est fait aujourd'hui, c'est les cartouches d'encre. Pour son matériel. Alors comme ça peut paraître pas toujours très cher, sauf qu'à long terme, a priori, c'est pas forcément hyper rentable d'acheter quand même ces petites cartouches HP. Mais voilà, c'est ça l'idée de ces entreprises de la tech, c'est de faire évoluer donc leur marché, de se diversifier, comme on dit, et donc d'avoir des initiatives de croissance clé. J'aime beaucoup ça, voilà. Puis une création de valeur à long terme, ça aussi, ouais. Voilà. Et donc en réduisant les coûts, et donc le coût, c'est le
salarié.
C'est le salarié, c'est ça.
C'est toujours ça le coût. Hein.
Voilà. C'était tout.
T'as vu une autre info, là?
Ah oui, effectivement, on va continuer sur l'international. Oui, c'était pour vous parler on va en Argentine. Nous allons vous parler, je vais vous parler, mais tu pourras aussi, Laurent, du décès de Hebe Bonafini. Cette peut-être femme vous parle. Elle était l'une des têtes connues des maires de la place de Mai. Elle est décédée à 93 ans. Je vous rappelle que c'est un groupe de femmes qui s'est créé sous la dictature militaire en Argentine par les maires qui recherchaient leurs enfants disparus. Plus exactement, leurs enfants enlevés par les têtes de cette dictature. C'est-à-dire que les familles qui étaient dans l'opposition, non seulement étaient réprimées, voire disparaissaient, mais en plus on enlevait leurs enfants pour les faire élever par des couples de cette bourgeoisie, de cette dictature militaire. Alors, il faut se souvenir hein, que ces mères, elles portent un foulard blanc. Pas parce qu'elles avaient envie de porter un foulard, mais parce que à l'origine, ce foulard blanc, il représentait les langes du tissu de leur bébé disparu. Donc elles ont commencé à se réunir hein, dans les années 70 sous la dictature, et puis c'était quand même un acte osé hein, de se retrouver sur la place de Mai pour revendiquer le droit de revoir leurs enfants. Hebe de Bonafini, elle a perdu ses fils. Elle est morte en ne sachant pas ce qu'ils sont devenus. D'autres ont eu plus de chance. Et puis, il y a un nouveau groupe qui est apparu après, qui sont les grands-mères de la place de Mai. Et là, pour retrouver effectivement les petits-enfants. Alors, il y a des fois hein, des belles histoires, bien heureusement. Alors, Hebe de Bonafini, c'est pas une femme qui est née militante. En tout cas, qui... a été militante et qui donc est devenue une des présidentes des maires de la place de Mai, c'est parce que l'histoire de ces dictatures l'a marquée, qu'elle s'est lancée dans ce combat et sa lutte qu'elle a portée hein, tout du long jusque donc avec les années 80. Là donc en Argentine, il y a un hommage populaire qui va lui être rendu, qui lui est rendu ce jeudi, et hier il y avait un drapeau qui restait en berne sur le palais présidentiel pour lui rendre hommage. Donc c'est une affaire nationale. Ce décès. Il faut savoir qu'aussi Bé Bonafini, elle faisait polémique, d'abord parce que, comme je vous le disais, elle était brute de décoffrage. Elle avait pas, c'était pas une intellectuelle de gauche qui s'était mise dans une lutte importante. Donc elle avait un discours assez franc du collier. Et puis, ben, c'est vrai qu'elle s'est engagée aussi peu à peu en politique. Alors, elle avait soutenu Fidel Castro à Cuba, Chavez au Venezuela. Elle s'était aussi mise du côté des Kirchner. Donc, elle avait pris finalement un parti, mais elle s'est aussi ensuite lancé dans d'autres luttes, dont un combat pour le droit au logement, par exemple, aussi en Argentine. Donc, c'est une femme qui, aujourd'hui, est un symbole en Argentine. Alors, elle a 93 ans, à son décès, évidemment, c'est toute une vie de lutte hein, pour elle. Mais d'autres ont repris hein, le flambeau, en tout cas, sur cette histoire de la dictature, pour ne pas oublier cette dictature et de ne pas laisser l'histoire oublier ce qui a pu se passer et des violences liées aux militaires.
Voilà, on va parler de violence et on va aller du côté des Kurdes, puisque vous avez sûrement entendu, il y a eu pas mal d'articles dessus, hein, l'armée turque a bombardé à de multiples reprises les régions kurdes du nord de la Syrie et de l'Irak, notamment, et les derniers bombardements sont entre le 20 et le 22 novembre, donc il y a quelques jours. Pour reprendre ce que la phrase parue le lendemain dans le journal d'extrême droite turc Yeni Safak, 89 nids de terroristes ont été détruits. Voilà, ça donne un peu le niveau de cette droite et de cette extrême droite religieuse turque dans leurs attaques contre les Kurdes, qu'ils soient en Turquie, qu'ils soient en Irak ou qu'ils soient en Syrie. Alors ils visaient explicitement le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et puis d'autres, puisque la Turquie annonce, enfin accuse surtout, le PKK et puis d'autres forces arabo-kurdes, notamment les forces arabo-kurdes des les forces démocratiques syriennes, d'être responsables de l'attentat qui a endeuillé Istanbul là, il y a une dizaine de jours. C'était le 13 novembre, lorsqu'une bombe a explosé et a fait 6 morts et 81 blessés. Donc voilà, il y a eu bombardement, on a des exemples, il y a un drone turc par exemple qui a bombardé en Syrie une base conjointe des forces kurdes et de la coalition anti-djihadiste, donc qui était entre autres menée par les États-Unis d'Amérique. Deux combattants turcs sont morts. Voilà, ça a tapé un peu partout. Vraiment un peu partout, hein, pour le coup. Toujours ce journal Yeni Safak, là, proche du pouvoir, note, tout content de lui, que les frappes aériennes turques ont pour la première fois frappé la ville de Kobané. Alors, on a beaucoup parlé il y a quelques années là de Kobané, une ville symbolique hein, pour les Kurdes, pour la démocratie kurde, pour l'autogestion, puisqu'il s'est mis en place plein de choses, des groupes de combattantes aussi, on en a beaucoup parlé, il y a eu plein de choses, de livres, de documentaires, de BD, autour de ce qui s'est passé dans cette lutte kurde contre la domination des différents pays qu'ils subissent. Donc voilà, c'est un symbole important de la résistance kurde, et ce journal est tout content que Kobané ait été pour la première fois bombardé. Tout va bien dans la région. Hein, on rappelle que les Kurdes ont beaucoup combattu, notamment à Kobané, contre l'État islamique. On sait que la Turquie entretient toujours des rapports ambigus avec les groupes terroristes islamiques. Et donc voilà, une preuve de plus que lors de ce bombardement de Kobané. Alors quelques heures après ces différentes frappes, le président autoritaire Recep Tayyip Erdogan a menacé d'en faire encore plus, voire de passer à une offensive terrestre, notamment en Syrie. Il a dit, je cite, « Il n'est pas question que cette opération soit uniquement limitée à une opération aérienne. Si Dieu veut, nous les éradiquerons tous dès que possible, avec nos chars et nos soldats. » Alors ça rigole pas. « Nous les éradiquerons tous », c'est un appel au génocide. Alors certes, c'est peut-être une tradition turque, les génocides. Donc après les Arméniens, c'est quoi? C'est les Kurdes? Vraisemblablement oui. On en est là aujourd'hui. Ce qui est le plus... Alors, certains médias turcs relativisent en disant, attention, c'est peut-être aussi une surenchère, puisque l'année prochaine, il y a l'élection présidentielle, hein, ça sera en juin 2023. Bon, bah, les Kurdes, comme surenchère, ils n'avaient rien demandé, eux, quand même. Hein. Ils galèrent déjà avec la Turquie depuis des années. Bon, ben voilà, ça continue. Donc, effectivement, certains médias, notamment d'opposition, expliquent qu'ils pensent que le pouvoir va multiplier ce genre d'opérations à mesure que juin 2023 approche. Vraisemblablement, l'objectif d'Erdogan, c'est de sauver son mandat et de continuer à être au pouvoir. Donc il va continuer à faire toutes ses actions nationalistes, donc pour allier les électeurs nationalistes. Il détourne l'attention de la crise économique, hein, qui est énorme. Lui, il a de l'inflation, hein, il a pas 5 ou 6% en moyenne. Hein, on est dans des chiffres faramineux. Donc il détourne l'attention. Il veut diviser l'opposition, parce que pour l'opposition, l'électorat kurde, c'est un électorat clé. Donc voilà, il y a tout un contexte quand même qui explique, sans justifier, mais qui explique un peu le retour un peu de la haine fortement instrumentalisée contre les Kurdes. Donc voilà, bon. Alors, sur l'attentat, il y a quand même beaucoup d'articles qui ont commencé à sortir, mettant en cause la version officielle. La version officielle, c'est les Kurdes. Alors pourquoi ? Les pistes de doute qu'on peut avoir, c'est que la suspecte, hein, qui aurait mis la bombe, elle a été envoyée, elle aurait donc été officiellement envoyée par le PKK pour faire exploser la bombe. Alors d'abord, elle n'est pas kurde. Bon, il pourrait utiliser quelqu'un d'autre, mais c'est quand même déjà pas très crédible. Tous ses complices, la cible de l'attentat, tout ça, ça ressemble pas à ce que font d'habitude le PKK ou les Kurdes. Et puis, son frère est un haut gradé des forces rebelles pro-turques qui sont présentes en Syrie. Bon, elle pourrait avoir des idées opposées à celles de son frère. Ouais. Et puis, elle a été emprisonnée par les Kurdes, parce qu'une fois, elle a été arrêtée par les Kurdes pour espionnage au profit de la Turquie. Bon, ça fait quand même beaucoup de pistes. On sait qu'il n'y a aucune preuve accusant les Kurdes, mais quand on voit ça, on se dit faut peut-être arrêter l'instrumentalisation. Bon, on connaît Erdogan et son parti, ils vont pas arrêter. Voilà. Alors pour en mettre une couche, la Russie est intervenue pour dire à la Turquie calmer le jeu, et le ministre turc de la Défense a envoyé bouler la Russie en disant que tant qu'on aurait des attaques, donc entre guillemets des attentats, on est en droit de répondre, même si c'est pas eux les responsables. Ça c'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Donc voilà, les pauvres Kurdes sont toujours au cœur de tout ça. Ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il y a eu plein d'articles dans les journaux, donc tout le monde est au courant. Par contre, des réactions officielles des gouvernements, on n'en voit pas beaucoup. De l'ONU, on n'en voit pas beaucoup. Hein, les condamnations, elles pleuvent pas. Mais il faut dire que la Turquie, c'est l'armée des Occidentaux, hein, pour empêcher les méchants migrants de rentrer par la Grèce. C'est l'allié de la Russie d'un côté, c'est l'allié de l'OTAN de l'autre, parce qu'ils sont membres de l'OTAN, donc tout le monde est pieds et poings liés. Ça emmerde tout le monde, hein, la Turquie, depuis des années, et ça continue. Du coup, les gouvernements laissent faire. C'est triste, là, par contre. Je continue ? Oh, ouais, oui. J'ai deux petites infos sur le racisme. C'est des trucs un peu anecdotiques, mais qui représentent quelque chose de notre époque, j'ai trouvé. Alors, la première info, c'est autour de la Russie. Et en fait, c'est un juif, hein, qui s'appelle Pinchas Goldsmith, qui explique la guerre en Ukraine détériore la situation de la communauté juive et fait monter l'antisémitisme en Russie. Alors sur le coup, on se dit, mais c'est quoi le lien entre l'attaque russe en Ukraine et l'antisémitisme en Russie ? Alors il explique, il a été démis de ses fonctions, il avait des fonctions officielles, hein, au sein de la communauté juive, il a été démis de ses fonctions en début d'année parce qu'il avait parlé de l'invasion de l'Ukraine et qu'il avait condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Alors il explique, il dit, il y a la crainte d'un autre rideau de fer. La situation économique se détériore, il y a une grande peur de la conscription, ainsi qu'une oppression croissante des résidents et des opposants. Aujourd'hui, en Russie, quiconque dit un mot ou tweet quelque chose contre le gouvernement peut se retrouver en prison. Donc selon lui, un quart des juifs de Russie ont quitté ou ont prévu de quitter la Russie suite à ce positionnement et à ces risques. Il a également expliquer que la Russie avait décidé d'interdire les activités qui étaient officielles jusqu'à maintenant de l'agence juive dans le pays et de ne plus donner de visa de travail aux professeurs d'hébreu qui venaient d'Israël qui venaient apprendre l'hébreu à la communauté juive. Il a noté aussi qu'en Biélorussie, c'était un peu la même et les mêmes circonstances. Il y avait une montée de l'antisémitisme parce que les Juifs biélorusses sont plutôt dans une position contre la Russie et contre l'attaque de l'Ukraine. Bref, ce qu'il décrit, c'est que le fait qu'une partie importante des Juifs de Russie et d'ailleurs, enfin, ou de Biélorussie, ne sont pas porteurs de ce nationalisme guerrier de Poutine, ça les transforme en ennemis. Et que ça fait monter donc du coup la haine contre eux, c'est-à-dire l'antisémitisme. Voilà. Et les conséquences indirectes à la guerre, on n'y pense pas toujours. En voilà une nouvelle à la guerre, à l'attaque russe sur l'Ukraine. Alors, on va à Besançon maintenant. Alors Besançon, ça fait, on n'en parle pas souvent. Il s'est passé deux choses récemment à Besançon qui sont inquiétantes et qui représentent un peu ce qui peut se passer dans d'autres villes. On connaît bien ça malheureusement ici. Alors c'est, on va remonter petit à petit dans le passé. Hier, mercredi matin, la ville de Besançon a découvert, de découvrir une statue qui s'appelle L'homme et l'enfant de l'artiste Ousmane Sow, qui a fait une expo à Lyon il y a quelques années là, qui fait bon après on n'aime pas, mais c'est souvent assez beau et impressionnant ce qu'il fait. Donc il a fait une statue en hommage aux justes, celles et ceux qui au péril de leur vie ont aidé des personnes, ont sauvé des personnes, on pense aux justes justement contre la barbarie nazie, etc. C'est une belle statue symbolique, symbole d'espoir, de courage, de lutte, etc. Et elle a été vandalisée, donc les mains, le visage ont été recouverts de peinture blanche. C'est arrivé la même chose à la statue de Victor Hugo, qui était en cours de rénovation et dont le visage était devenu marron. Et ça va expliquer des choses. Car, en fait, ces blanchiments de la statue de Victor Hugo ou de l'homme et l'enfant, qui sont deux statues de Ousmane Sow, ça a un sens politique très fort. En fait, ça montre un racisme profond, décomplexé, qui s'exprime à travers tout ça. Pourquoi ? Et pourquoi ? Comment sait-on que c'est du racisme ? En fait, ceux et celles qui l'ont fait, on peut poster des choses sur les réseaux sociaux et c'est sorti. Puisqu'ils sont vantés d'avoir attaqué. On parle de groupes d'extrême droite, de néo-nazis. Ils ont posté des photos et des textes du genre, je cite, « À l'initiative des nationalistes locaux, la statue de Victor Hugo, dégradée par la maire de Besançon, parce que maintenant le visage est sombre, a été restaurée et arbore désormais une belle couleur blanche, bien française, bien byzantine, bien du 19e siècle. » Ah, on sent le facho là, il n'y a pas de souci. Et puis ils avaient fait une photo de la statue de Victor Hugo en partie repeinte en blanche avec une pancarte White Power. Enfin voilà. Donc on sait que c'est l'extrême droite. C'est vraiment très triste de s'attaquer aux œuvres d'art en général. Beaucoup de gens ont condamné les fausses attaques des militants écolos pour faire émerger un vrai débat sur la destruction de la planète, alors qu'ils détruisent pas vraiment les œuvres d'art. Par contre là, bizarrement, on en parle beaucoup moins, hein. Pourtant, Victor Hugo, c'est quand même, finalement, l'extrême droite, c'est acceptable. Les méchants écolos, ça l'est pas.
Oui, ils les détruisent même pas du tout, hein, les écolos radicaux.
C'est des actes symboliques.
Qui balancent de la soupe sur c'est des actes symboliques, mais ils balancent de la soupe, par exemple, sur une vitre, et derrière, il y a un tableau. Parfois eu aussi une destruction d'une œuvre. Enfin, il y a des abrutis partout, hein, dans tous les milieux et même sur les anarchistes, par exemple. Donc effectivement, on a eu beaucoup de polémiques. Ousmane Sow, juste pour rappeler, il est mort en 2016. C'était un 1er décembre. Il était sénégalais, né et mort à Dakar. Il a beaucoup travaillé le bronze et il y a eu une polémique d'ailleurs sur cette rénovation de cette statue de Victor Hugo qui n'était pas terminée, qui était en cours. Effectivement, sa veuve n'avait pas pu encore voir le travail de réhabilitation. On peut pas dire que c'était peut-être une bonne, pour l'instant, une bonne rénovation de cette œuvre de Victor Hugo. Il aimait travailler le bronze, hein, cet artiste. Toujours est-il que le problème est même pas là sur cette polémique, c'est plutôt ce qu'a fait, comment s'est servi de ce débat sur la rénovation d'une œuvre d'art, l'extrême droite suprémaciste, blanche, raciste et tout ça.
C'est à moi.
Oh bah je pense. Oui.
Alors petite info sur Monaco. On parle jamais de Monaco ici. On s'en fout de Monaco. C'est un régime bizarre. C'est une principauté. Le catholicisme y est religion d'État. Et il s'est passé un truc complètement dingue. Ils ont reconnu officiellement comme église les Témoins de Jéhovah. C'est un truc incompréhensible. Alors, ça fait, c'est pas la première fois qu'il y a des attaques en justice de la part des témoins de Jéhovah pour essayer d'avoir une existence légale sur, à Monaco. En 2019, ils avaient déjà fait ça. Bon, et là, c'est officiel. Donc, ils sont reconnus comme église. Alors que, on a encore beaucoup de preuves du comportement sectaire de ce groupe de personnes. Donc, il y a tout, il y a pas mal de descriptions hein, sur comment les gens rentrent d'abord volontairement et qu'ensuite il y a un embrigadement psychologique fort qui les empêche de sortir de la secte, qui les empêche d'avoir envie de vivre avec des gens qui sont pas comme eux. Ben, il y a beaucoup de livres dessus qui expliquent bien comment, en fait, il y a un embrigadement idéologique, psychologique très très fort dans le mouvement des témoins de Jéhovah. On a beaucoup d'enfants qui témoignent aussi, issus de parents qui sont témoins de Jéhovah et qui ont embrigadé leurs enfants dedans. Enfin voilà, il y a la Mivilude avait parlé des dérives sectaires en 2021. La Suisse avait condamné en 2020 les témoins de Jéhovah pour des pratiques religieuses proches de sectaires. Voilà, c'est un mouvement hein, qui est religieux, qui se réclame du christianisme, mais c'est plus compliqué que ça. Ils rejettent ils interdisent les transfusions sanguines, ils sont homophobes, ils sont créationnistes, enfin voilà, ils sont contre l'apostasie qui pour eux est un péché grave. Voilà, c'est vraiment tout ce que la secte qu'on connaît, quoi, voilà, avec tout l'embrigadement. Cette reconnaissance par Monaco vient juste arriver comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et moi, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, dans la même idée, on aimerait, je dis on, mais c'est pas toi et moi, c'est d'autres gens et moi peut-être, faire en sorte que le Crédit Mutuel se sente mal, puisque le Crédit Mutuel a décidé, dans le cadre de son projet opération Projet Gagnant, ça s'appelle, de donner 1000 euros de soutien à Redécole. Redécole, c'est un réseau d'écoles qui se dit libre, qui est proche de Réinfo Covid, donc complotiste, anti-vax... dire aussi d'extrême droite. Crédit Mutuel, vous avez pété une durite, on peut vous le dire. Redécole est proche aussi, par exemple, de l'Éducation Plurielle, qui est une association qui veut promouvoir, soi-disant, une pluralité pédagogique. Déjà, rien que ça, voilà. Et qui est proche de l'enseignement des écoles Steiner-Waldorf. Donc, voilà, Crédit Mutuel, réfléchissez un peu avant de soutenir tout le monde et n'importe qui. Il suffit d'un peu d'aller chercher et de regarder et de lire les textes de Redécole pour se sentir qu'il y a quand même un gros gros problème. Voilà, ça fait un peu du bruit chez les rationalistes aussi, et puis pour tous ceux et toutes celles qui s'inquiètent de la présence des mouvements sectaires dans les écoles. Voilà, donc voilà, Redécole a des sous du Crédit Mutuel et c'est pas bien.
Ouais. Je crois qu'on va s'arrêter là.
Bah non, j'avais quand même
deux. Encore 3 minutes là.
Non, bah je vais surtout dire que demain, allez, allons-y pour demain, 25 novembre, au 34 rue de Crimée, se tiendra à partir de 19h une rencontre discussion organisée par le CRAM Lyon. Le CRAM, c'est le collectif régional anti-armement et militarisme de Lyon. L'idée, c'est de parler de l'industrie de l'armement, du militarisme, de la guerre, et puis effectivement de ce service national pourri qu'on veut nous remettre en place.
Le SNU.
Exactement. Donc voilà, 34 rue de Crimée, c'est sur le haut des pentes de la Croix-Rousse à 19h, organisé par le CRAM. C'est pas tous les jours qu'il y a des rendez-vous antimilitaristes, donc ouais. C'est plutôt sympa. Et puis samedi 26 novembre à 14h, place Bellecour, vous avez le droit d'y aller en violet, mais vous pouvez y aller aussi en rouge et noir, il n'y a pas de souci. À partir de 14h, vous aurez un happening et des prises de parole des membres du collectif Droit des femmes 69. Le happening, il est organisé par les femmes en blanc de Filaction. Et puis à 15h, il y aura une manifestation donc du collectif Droit des femmes 69 contre les violences sexistes et sexuelles. Alors le collectif Droit des femmes 69, c'est qui? C'est Filaction, Impact, Nous, Toutes Rhône, Planning Familial 69, Femmes Solidaires, Collectif MeToo Lyon, Vifil, la LDH du Rhône Solidaire, l'UDCGT 69, Tous des Lyonnes, FSU 69, le PG 69, Lucie Frappe NPA, Ensemble, PCF du Rhône, PS du Rhône et ELV Lyon, par exemple. Voilà. Parce que malheureusement, nous avons encore nous des soucis, les femmes. Et quand on aura géré ce problème de violence sexiste et sexuelle, il faudra encore gérer les discriminations. Ben, je pense qu'on est encore là pour quelques temps, place Bellecour.
Ouais. 19h59 à la pendule la plus rebelle des radios, il est temps de...
Et on ne sait pas de quelle est la thématique musicale ce
non,
soir.
Non, ils sont de retour, c'est très bien. Ah, il arrive en courant.
Est-ce qu'il pourrait nous dire de quoi on parle si jamais il nous entend?
Non, pas sûr.
Il n'est pas à côté.
Donc en tout cas, il y a un
la musique, il y a une émission. Pas les bombes musicales, mais une vraie émission avec des gens dedans qui vous parlent et qui choisissent des morceaux de musique. Et normalement, il y a une thématique. On ne la connaît pas ce soir.
Bah non. Donc un petit bout de bande continue juste après une émission de musique.
Ciao, ciao.
Bye, bye.